19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Secteur en souffrance, la communauté scientifique se mobilise contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, loi tout à la fois volontairement inégalitaire et darwinienne, d'après le patron du CNRS. Les scientifiques se refusent aussi de devenir les gestionnaires de la précarité. La recherche et l'enseignement supérieur, c'est aujourd'hui 130 000 précaires et vacataires, les intermittents du tableau noir, pour reprendre un mot du canard enchaîné. En sciences de l'homme et de la société, 300 laboratoires et quelques 150 revues scientifiques sont actuellement mobilisés. Mais revenons à notre sujet. Voici peu, le magazine d'archéologie de France Culture s'était penché sur la chute de Rome, la fin d'un empire, l'occasion de retracer plus de 2 siècles d'histoire, de Caracalla à Théodoric. Nous rouvrons ce soir le dossier Rome sous un nouvel angle, cette fois-ci à la croisée de l'archéologie et de l'histoire, pour mieux savoir s'il existe un monde romain ou tout au contraire des mondes romains. C'est donc de la domination de Rome, celle de l'Empire sur les provinces, dont nous allons parler avec Ricardo González Villa Escusa et Jean-Pierre Vallat. Bonsoir.
Bonsoir.
Ricardo González Villa Escusa, vous êtes professeur d'archéologie à l'Université de Nanterre et Jean-Pierre Vallat, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne Paris-Cité. Vous venez tous deux d'éditer un ouvrage, Les mondes romains, questions d'archéologie et d'histoire, aux éditions Eclipse. Justement, ma première question porte tout à la fois sur l'archéologie et l'histoire. Et bien entendu, se doit de commencer par Rome, sa civilisation, mieux, sa fondation, son mythe. Avez-vous vu l'improbable annonce de la découverte de la tombe de Romulus au cœur du Forum romain et présentée en grande pompe fin février à la presse? Vous l'avez vu?
Jean-Pierre Vallat. Je dirais que c'est une très vieille histoire puisqu'elle remonte à la Roma Quadrata, à ce qu'il se trouve sur le forum ou à ses marges. Et il y a dans le livre un article d'Alexandre Grandazzi qui prend une position sur cette grande question et qui est qu'il est difficile de lire l'archéologie, de lire les mythes avec Polyboutitlib en main.
Ça c'est sûr. On avait déjà cru trouver ou vu une sorte de sillon, le fameux sillon créateur donc de la Rome antique vers le 7e siècle avant notre ère. Les archéologues se fourvoient-ils dans ce genre de quête, le symbole de Rome? Rome semble très très présent.
Alors Rome est très présente, mais d'un autre côté, vous le verrez dans le livre d'ailleurs, l'archéologue a besoin de preuves qui sont matérielles. Ça n'est pas d'ailleurs parce qu'on a des preuves matérielles qu'elles prouvent un mythe ou qu'elle prouve, par exemple, une fondation. Et vous verrez également que dans l'article de Vincent Jolivet sur la Trinità dei Monti, il y a la même contestation, c'est-à-dire a-t-on une grande villa romaine ou a-t-on au contraire un infait? Donc, pareil, est-ce qu'on lit la Trinità dei Monti livre en main avec Tite-Livre ou un autre auteur, ou est-ce qu'on fouille, est-ce qu'on donne des dates et est-ce qu'on donne le sens de certains murs ou de certains artefacts?
Rome est avant tout une incroyable métropole, la plus grande, la plus vaste, la plus gigantesque cité de l'histoire de l'Occident, et cela jusqu'à la révolution industrielle.
Je conteste assez formellement cette vision. Je suis peut-être un minimaliste. Par de multiples calculs, on peut évidemment bâtir, à mon avis, un peu sur du sable. Combien il y a d'habitants? Est-ce que c'est parce qu'il y a une grande surface? Est-ce que c'est parce qu'on considère Rome dans les limites du pomerium initial? des murs d'Aurélien, ou au contraire, du Pomerium beaucoup plus grand, des années 2e, 3e siècle, etc. Pour moi, Rome n'est pas la Bombay ou la Calcutta qu'ont vu certains auteurs, dont Catherine Virlouvet. C'est plutôt une ville de 600 à 700 000 habitants, et non pas de plus d'un million.
Justement, vous avez fait, je crois, des calculs savants pour savoir le nombre d'habitants de Rome.
Alors, ce ne sont pas des calculs savants, c'est une espèce de réflexion sur d'autres villes, d'abord, d'Italie, de l'Empire romain. Par exemple, à Bordeaux, nos collègues ont calculé la population à partir de toute autre donnée, c'est-à-dire les morts dans un cimetière, la durée d'utilisation du cimetière, l'âge de décès, et ils ont trouvé, par exemple, pour Bordeaux, quelque chose comme 15 ou 20 000 habitants. Et si on travaille sur d'autres villes d'Italie, à mon avis, le coefficient, je dirais, surface-grandeur n'est pas toujours stable et il faut avoir bien d'autres données pour arriver à réfléchir sur la population urbaine, par exemple, de l'Italie et encore plus du monde romain.
Alors là, bien sûr, on parle de Rome, la cité. Il faut aussi parler de son empire absolument gigantesque qui va donc peut-être des îles Pharasanes au milieu de la mer Rouge jusqu'au mur d'Adrien en Écosse.
Gigantesque
et
durable, parce qu'il y a eu d'autres empires qui n'ont pas eu la même durée. Et donc justement, c'est cette durabilité de l'Empire romain qui se base un peu dans cette capacité d'adaptation et d'intégration, bien sûr avec la force, ça on va pas le nier, mais avec une grande souplesse à l'heure de prendre en compte les différents territoires et différents peuples qu'ils vont rencontrer.
Alors votre point de vue est très original. Rome, ou du moins son empire, serait avant tout diverse, multiple, complexe.
Multiple, complexe et peut-être pas justement à voir uniquement à partir de la Méditerranée et de ses pourtours immédiats. Rappelez-vous la phrase d'Édouard Glissant qui disait que Alésio avait trouvé fasciste, entre guillemets, le fait d'établir que la civilisation et la civilisation universelle, c'était Rome, c'était la Grèce, c'était la Méditerranée. Il y a des mondes périphériques et il ne faut pas laisser ces mondes périphériques sur le bas-côté de l'histoire.
Ricardo Gonçalves, donc, un monde divers, multiple, complexe à la fois aussi?
Mais en multivers, on pourrait dire aussi. Je crois que il y a récemment Barry Kunlife de Oxford a publié pas mal de choses. C'est les grands qui mettent en relief l'océan aussi. La connectivité entre la Méditerranée, qui est bien sûr un lieu central de l'Empire, de l'Antiquité, mais aussi le fait que cette Méditerranée s'est développée énormément grâce aux besoins de connectivité, des connexions entre l'Orient, d'une part, et l'océan, à cause des minéraux, etc. Donc lui, il a produit récemment des ouvrages autour de ces liens entre l'océan et la Méditerranée et ces mondes périphériques qui est tout à fait central à partir d'un moment.
Ça va jusqu'à l'océan Indien et jusqu'à l'Inde même.
Oui, tout à fait. Et jusqu'au...
Arikamedou, c'est bien ça, non?
La mer.
Le fameux site indien
oui,
où on a de la vaisselle romaine.
Et le temple qui est représenté en Inde dans la table de Pétanger, par exemple.
Ainsi, et toujours pour vous, le monde romain n'existerait pas et doit se substituer à des mondes romains plutôt?
Oui, ben en fait, il y a pas mal de diversité et on a cru intéressant. Je reviens un peu sur l'image de la table de Pétanger. Peut-être on n'a pas réfléchi assez, ça a été à la dernière minute, mais cette table de Pétanger qui ne représente pas seulement le territoire conquis et administré par Rome, mais qui représente aussi jusqu'à la Chine, jusqu'à l'Inde. Et donc, c'est cet esprit, c'est cette idée d'expansion et des compréhensions d'un monde qui est périphérique au monde romain qui a précédé un peu notre tâche.
Je reviens. Vous pourriez me dire ce que c'est que cette fameuse table de Pétanger?
C'est une carte qui n'en est pas une. En fait, c'est une sorte de GPS avec toutes les étapes, tout le relais de l'Empire et ailleurs, qu'on connaît par une copie du XIe siècle et que représente, c'est pas une représentation cartographique telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est une représentation des itinéraires et de ces mondes contrôlés par Rome et dont on a aussi un beau chapitre signé par Anca Dan, sur la cartographie de l'Antiquité.
Jean-Pierre Valla, donc il faut substituer des mondes romains
Vous êtes un peu provocateur en disant cela parce que nous traitons aussi du monde romain. Il y a Pompéi, il y a des chapitres sur Rome, etc. Et nous ne nions absolument pas qu'il y ait un monde romain et un empire romain. En revanche, ce que nous avons essayé de voir, c'est comme le cinéaste qui tourne autour de son objet et qui de temps en temps fait un zoom et puis de temps en temps se recule, de voir un petit peu comment les citoyens ont vécu à la fois en Orient et en Occident. On parlait parfois plus l'araméen ou le grec que le latin. Et comme aussi dans la société, il y a une intégration, mais qui a, à mon avis, deux niveaux. Une intégration que j'appellerais par le haut, c'est-à-dire Rome romanise des peuples. Et puis il y a une intégration par le bas, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui soit résistent, ou au contraire, acceptent à des degrés divers la romanisation.
Ce que vous refusez, c'est la conception de l'unicité surtout.
Oui, c'est l'unicité et c'est le fait aussi de considérer que les rapports finalement du monde romain, de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord que l'on connaît bien, c'est-à-dire la Tingitane, la Cyrénaïque, la Tripolitaine, n'a pas eu de relation avec les autres. C'est-à-dire a eu notamment des frontières, le fameux limes.
Me faisant l'avocat du diable, je vous dirais, mais que faites-vous du génie romain ?
Alors, le génie romain, à mon avis, c'est aussi ce que certains ont appelé la cascade des mépris. C'est-à-dire que lorsque vous êtes Cicéron, on vous explique que vous ne parlez quand même pas tout à fait bien le latin parce que vous n'êtes pas de Rome. Lorsque vous êtes l'empereur Septime Sévère, on vous dit que vous avez quand même un fort accent, entre guillemets, africain. Et donc, si vous voulez, même quand on devient, comme vous l'avez dit tout à l'heure en parlant du livre de Catherine Virlouvet, un citoyen romain avec l'édit de Caracalla, on est quand même toujours, je dirais comme nos modernistes en pain, pas tout à fait décrassé malgré la savonnette à vilain.
Ricardo González Villaescusa, le génie romain.
Justement, ce qui est intéressant et ce qui est original, il y a des élites de la périphérie, à un moment donné de la périphérie, qui accèdent à la plus haute magistrature de l'Empire. Et donc, on a des empereurs hispaniques, on a des empereurs africains, puis orientaux de même, et à la fin de l'Empire. Et donc, on voit que le génie romain, c'est justement cette capacité et cette possibilité d'être en même temps romain et venir d'autre part, d'autre monde romain.
Ça a beaucoup attiré, le monde romain a beaucoup attiré. On dit toujours les barbares, mais... Oui, ils ne le sont pas tant que ça pour finir.
Mais justement, on dit dans les livres que tous les barbares, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est l'Empire romain. Et justement, c'est à l'ombre de Rome que ces peuples barbares se développent. Et à un moment donné, ils ont une capacité, une force sociale, économique et même militaire pour pouvoir discuter vis-à-vis avec Rome.
Le romanocentrisme est une réalité, notamment chez les auteurs antiques, Tite Live, pour ne pas le citer par exemple. Face au texte, à l'histoire, l'archéologie n'a-t-elle pas justement largement contrebalancé ce point de vue ?
Absolument. Depuis 30 ans, voire 40 ans, les trouvailles archéologiques, les fouilles archéologiques ont bouleversé tous ces mondes. Et justement, nous voulions donner une réponse un peu à comment l'histoire et la perception de l'histoire des Roms change ou a changé avec toutes ces trouvailles et toute cette diversité archéologique qui a explosé, si on peut le dire comme ça, depuis cette trentaine d'années.
Sur quel thème cela a-t-il avancé ?
On peut dire aussi, on connaît énormément justement la périphérie de l'Empire à travers pas mal de fouilles archéologiques, mais on connaît aussi au sein de l'Empire, on connaît des objets, des recherches qui étaient absolument périphérique et qu'on connaissait pas, c'est-à-dire à partir de la dendrochronologie et toutes les sciences paléo-environnementales, on commence à comprendre beaucoup plus l'environnement de cette société, quelque chose qui était absolument en silence il y a juste une trentaine d'années.
En tout cas, on peut dire qu'il faut sortir de Rome, il faut aussi sortir probablement de la Méditerranée, considérée comme une sorte d'unité elle aussi, une sorte de monde, une sorte de centre de civilisation.
Moi, méditerranéen comme moi, en fait, et qui traite en sujet tellement méditerranéen, justement, j'ai eu un impact énorme quand j'étais nommé à Reims professeur d'archéologie. Et donc, j'ai découvert Reims, j'ai découvert un peu plus tard Trèves, et j'ai produit un article qui s'appelle « Gallia Belgica, un objet sans revendication nationale », qui était justement la stupeur ou la surprise de quelqu'un qui découvrait un peu qu'à Reims ou à Trèves, il y avait un souci des gens de l'époque, de l'Antiquité romaine, de démontrer une plus grande romanité. Et quand on voit et on découvre, en tant qu'archéologue méditerranéen, ces contrées où Londres, je viens de voir et connaître un peu Londres romain, on se rend compte qu'en fait, on a un peu trop de méditerranéocentrisme.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Pierre Vallat, une fois l'Égypte conquise, Rome devient la maîtresse de l'œcumène. Pour Claude Nicolet, au-delà des auteurs de cette conquête, il est aussi intéressant de percevoir le point de vue de ses victimes. Ce point de vue décentré de Rome est-il un nouvel axe de recherche ?
Il n'est pas seulement un axe de recherche, mais je dirais plusieurs. Vous avez vu que le livre s'appelle « Questions d'histoire et d'archéologie », c'est-à-dire qu'il ne veut pas être péremptoire. Il veut poser des hypothèses, des axes de recherche. Vous parliez tout à l'heure d'identité. Nous aimerions bien monter sur le temps long, 800 avant, 800 après, que l'homme romain n'est pas uniforme, n'est pas identique. Il est impossible de penser que l'homme tel qu'on le présente, par exemple au temps de Caton, le romain frugal, etc., est le même sous Théodose ou sous un autre empereur. Et si vous le voulez, je pense aussi que dans la géographie large dont a parlé Ricardo, il ne peut pas être le même à Rome même, en Cilicie, à Doura Europos, à Zeugma, etc. Donc, diversité des comportements, diversité des intégrations. Et on parle le latin à Rome, mais on parle aussi l'araméen, l'hébreu, le grec lorsqu'on est en Orient. Et peut-être plus l'araméen d'ailleurs.
Alors vous dites bien sûr que les mondes romains ne sont comparables ni dans le temps ni dans l'espace, soit. Je prends toutefois le contre-pied de l'historien. En 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Nous voici devant un empire politiquement unifié et culturellement universel. Celtes ou égyptiens, nous sommes tous des Romains.
Oui, il a été très bien dit que l'on était romain d'Espagne, que l'on était romain d'Égypte, que l'on était romain de Gaule, mais il faut bien voir que sous cette appellation, il y a beaucoup de diversité. On ne se comporte pas de la même façon, on ne mange pas de la même façon, on ne se vêt pas de la même façon aux deux bouts de l'Empire. Et en plus de ça, on a des contacts. Par exemple, lorsqu'on parle des contacts avec l'Afrique, il ne faut pas oublier que nous mesurons très mal, par exemple, ce que l'Afrique noire, par exemple les fouilles du Mali, ont apporté à l'Empire romain. Nos collègues anglais ou américains se sont posés beaucoup de problèmes parce que les artefacts sont difficiles à trouver. Voir qu'il y a des esclaves noirs, par exemple, qui arrivent dans l'Empire romain, des bêtes, si on les connaît un tout petit peu mieux, de l'or qui a souvent été refondu, bien tout cela prouve que l'on a un monde romain poreux et que les victimes dont vous parliez tout à l'heure ont peut-être autant apporté à l'Empire romain que Rome leur a apporté.
Ricardo González, romain de Gaule, soit gallo-romain, c'est un gros mot.
Ben oui, mais justement, j'invite à lire le chapitre 27 qui était rédigé par Mathieu Pou, dont il parle des les Gaules, les Germaniques comme laboratoire d'hybridité. Et justement, ce n'est plus le même. Hybris en grec signifie justement un nouveau être qui est une synthèse de deux antérieurs. Et donc, c'est ça qu'on a voulu montrer, sans entrer dans l'essentialisme. Mais le romain des Gaules ou des Germanies sont pas exactement les mêmes romains que ceux de l'Espagne.
Donc, ils ne sont pas tout à fait solubles dans la romanité ?
Ils sont pas tout à fait solubles, ils sont de nouvelles manières d'être romains. Je crois que c'est une leçon à tirer. Je crois que on peut être divers en même temps que appartenir à une identité plus vaste, plus générale.
Alors, il nous faut bien sûr prendre des exemples. Rome, c'est la construction monumentale, les systèmes décoratifs gréco-romains, c'est l'hydraulique, l'épigraphie bien sûr, qui on en trouve absolument partout dans le monde romain, le confort urbain, le culte impérial, un cadre institutionnel. Prenons par exemple les villes, ces énormes villes basées sur des axes. Vous me parliez tout à l'heure de Reims ou de Trèves. Reims, c'est 550 hectares. On est dans une sorte de macrocéphalie urbaine.
Oui, dans certains secteurs de la périphérie de cette Méditerranée, on détecte qu'il y a des macro-villes, des énormes villes qui ont cumulé une quantité de fonctions urbaines, justement du fait de, avant Rome, il n'y avait pas une société urbaine. Et donc, l'apport des Roms avec des nouvelles villes, ces nouvelles villes cumulent une quantité de fonctions urbaines et ça contribue à un grandissement, à une croissance extraordinaire. Et donc, ce sont des phénomènes qu'on a identifiés aussi dans le géographe des années 80, par exemple, dans les villes coloniales. En Mexico, DF, avec une vingtaine de millions d'habitants, c'est un peu le fruit de ça. Et quand on voit les grosses villes de la périphérie de l'Empire romain, on se rend compte qu'en fait, c'est un phénomène qui est comparable. Je ne dis pas exactement les mêmes.
Alors, vous avez, à vous deux, œuvré dans de nombreux pays, l'Italie, le Portugal, la Syrie, le Maroc, les Baléares. Vous avez vu ces énormes villes, par exemple, Jean-Pierre Valla, sur vos terrains ?
Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les villes, puisque je suis d'abord un historien des campagnes, mais évidemment j'étais amené à travailler alors plus sur des villes qu'on appelle parfois secondaires que sur des grandes villes. Et je crois que quand Ricardo parle par exemple des réseaux urbains, c'est souvent aussi cet aspect. C'est-à-dire que l'Empire romain est urbanisé, moi j'ai estimé que c'était à peu près à 20%, voire c'est un maximum. Donc, si vous voulez, les campagnes économiquement et socialement sont quand même toujours beaucoup plus importantes que les villes.
Ricardo González, vous avez travaillé sur un fortin tardo-romain en Méditerranée, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, dans les îles Baléares et à Formentera. Et justement, c'est un dossier qui est tout à fait intéressant et qui montre comment l'archéologie permet de réfléchir à des questions qu'on n'avait pas réfléchies en histoire. Et ces petits fortins de surveillance côtière, c'est un fortin, donc ça a été compliqué d'interpréter un peu la fonction qu'il pouvait avoir. On a trouvé que la date pourrait être du début du 4e siècle et à partir de cet élément de chronologie et puis la distribution de la circulation monétaire dans les îles Baléares et en l'occurrence à Ibiza et Formentera, on se rend compte qu'il y a une quantité énorme, 80% de pièces de monnaie de Maxence. Donc c'est pas du tout normal. Tous les numismates consultés nous disent bah voilà, c'est le troupe, ce sont le militaire qui ont provoqué cette anomalie. Et donc, on a interprété, toute interprétation est soumise à une caution, mais on a interprété que très probablement c'était un conflit interne, donc le conflit entre Maxence, un usurpateur, et Constantin, qui a arrivé en 312 à l'empire de Constantin.
Jean-Pierre Valla, quelques mots aussi sur une grande cité, par exemple, Zeugma.
Alors, Zeugma, c'est d'abord, je dirais, un lieu à la fois de politique contemporaine, puisque ce sont toutes les batailles qui se livrent aujourd'hui entre les archéologues et les aménageurs du territoire, puisque cette ville a failli disparaître sous des barrages. D'autres aujourd'hui sont aujourd'hui menacées encore. Et toute cette recherche sur à la fois Zeugma, Sagalassos, etc., nous apprend comment est organisée une ville orientale qui n'est justement pas avec son grand axe le Cardo et avec son axe le Decumanus, mais qui a sa forme primitive, très différente, comme Brescia en Italie par exemple, a des temples, un mode de vie qui est très différent de celui d'une ville qui aurait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un carboyage tout à fait à la romaine entre guillemets.
Il y a donc les mondes romains, mais il y a aussi le dehors. Évoquons cette frontière, ce mur que l'on appelle le limes, sorte de limite symbolique, puisque l'on sait que ceux de Berlin à Jérusalem, de Chine ou celui de Donald Trump sont des murs qui sont faits pour être franchis.
Oui, et justement...
C'est des murs symboliques.
C'est des murs symboliques et des murs... il faut prendre en considération le fait que déjà Rome, à un moment donné, établit ses limites dans les reins parce que ils ont fait des incursions à l'extérieur du Rhin, donc jusqu'à l'Elbe, il y a quelques trouvailles archéologiques romaines. Et c'est vrai, c'est une limite, mais la limite, elle est absolument perméable. Elle n'est pas si possible d'établir une limite infranchissable.
Jean-Pierre Vallat, comment perçoit-on Rome dans ses confins, voire même au-delà? C'est un point de vue qui, en général, peu appréhendé.
Alors, non seulement c'est peu
appréhendé... Allons chez les Scythes, par exemple.
Alors, j'allais commencer par les Garamantes. Ce qui m'avait passionné il y a une vingtaine d'années dans le livre de David Mattingly sur les Libyan Studies, les Libyan Valleys, c'est que, pour lui, les Garamantes entrent dans l'Empire romain lorsque ça les arrange, et s'en retire lorsque ça les arrange. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une vision, comme vous le disiez tout à l'heure, des victimes et des vainqueurs, c'est le fait qu'on commerce, l'Empire romain est solide et commerce, et envoie plus de produits peut-être vers les Garamantes au départ que dans retire de fruits, mais ensuite, lorsque les Garamantes et l'Empire romain s'effondrent, ben, ils retournent dans leur xour et ils profitent de leur route caravanière.
Un mot sur les Scythes?
Alors sur les Scythes, c'est un très beau domaine sur lequel j'étais et je reste très incompétent, mais nous avons eu heureusement l'aide très indéfectible, très savante, comme vous le savez, de Véronique Schiltz, et elle a trouvé un bon mot qui était, par opposition au monde du désert, le monde des sables, le monde des herbes, ce monde des nomades, ces nomades qui eux aussi travaillent avec les Sassanides, viennent être des soldats des Parthes, puis de la Crimée jusqu'à la Mongolie, et on redescend là vers l'Inde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement lie l'Empire romain à des confins.
Vous valorisez en couverture de votre livre un bas-relief, celui de Shapur Ier, roi sassanide, qui dans la plaine de Mésopotamie guerroya contre les Romains en 243, en 252, les écrasa en 260 et captura même l'empereur Valérien. Pourquoi ce choix, Jean-Pierre Vallat?
Nous avions 30 collègues qui, un peu comme Ricardo et moi, étions assez provocateurs. Et le livre, vous savez qu'un éditeur aime bien quand même avoir une couverture qui attire l'œil, il va poser des questions. Vous avez commencé tout à l'heure l'émission en disant que la recherche était en crise. Je crois qu'elle est en crise aussi d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cloisonnements, qu'ils soient ceux du CNU ou ceux du CNRS, les sections coupent les périodes, les lieux, etc. Et là, nous avons voulu montrer deux histoires racontées différemment. Les Romains disent qu'ils ont été vainqueurs. Les Perses montrent, les Parthes, les Sassanides montrent que c'est eux les vainqueurs. Et ils en ont la preuve puisqu'ils ont un empereur qui est sous les pieds du cheval de Shapur, qui est mort, Gordien. Et il y en a deux qui, l'un à genoux et l'autre tenu comme en laisse par ses mains, évidemment, suit le cheval du vainqueur. Et il y a un regard encore plus, j'allais dire, vicieux de la part des Perses, c'est que dans l'un des derniers personnages sur la droite, il y a peut-être un descendant de Suréna, c'est-à-dire celui qui a vaincu Crassus 200 ans avant.
Je rappelle le titre de votre livre, publié donc avec 30 chercheurs, « Les mondes romains, questions d'archéologie et d'histoire », publié aux éditions Ellipse. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claude Niort et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. Le magazine d'archéologie de France Culture cède durant 2 semaines la place aux élections municipales. Nous vous retrouvons donc le 29 mars autour d'un superbe sujet en évoquant les Visigoths.